Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouane.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue de Studio Tamani. Vous que nous suivez sur nos 85 radios partenaires à travers le pays, mais aussi sur nos 3 télévisions partenaires. Bienvenue dans ce débat dans lequel on va parler de politique aujourd'hui. L'ex-premier ministre Choguel Kokala Maïga a dénoncé samedi dernier le retour de certaines pratiques qui avaient cours sous l'ancien régime. Le président du M5-RFP, au cours d'un meeting de son mouvement, a porté plusieurs autres critiques vis-à-vis de la gestion actuelle du pays. Avant lui, c'était le professeur Ali Nouhoun Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale et militant de l'ADEMA-PASJ, mais aussi Maître Muntagatal, président du CENID Fassou Iriwaton. Tous les deux ont, à leur manière, rappelé les dangers d'une transition longue. Ces sorties interviennent après une longue période de silence de certains acteurs majeurs de la politique. Peut-on dire que les langues se délient enfin? Comment comprendre ces sorties? Comment analyser le timing avec nos invités au nombre de 3? Docteur Souleymane Keïta, enseignant-chercheur, analyste politique aussi. Professeur Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur et politiste. Et docteur Amadou Touré, également enseignant-chercheur et analyste politique. Nous allons essayer d'analyser ces sorties. Sékou Gadjigo va modérer ce grand dialogue. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce débat.
Le grand dialogue.
Merci, chers invités, d'avoir répondu à cette invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire écouter cet extrait du discours de Choguel Kokala Maïga samedi dernier. C'était ici même à la Maison de la Presse, au cours des meetings du M5-RFP. Choguel Kokala Maïga a dénoncé le retour de certaines pratiques anciennes qui jurent avec les intérêts du pays, mais aussi il a porté d'autres critiques vis-à-vis de la gestion actuelle du pays. Je vous invite à écouter Choguel Kokala Maïga au micro de notre reporter Amadou Cheikh Diarra.
Le président est issu d'un consensus entre le CNSP d'une part et le comité stratégique d'autre part. La constitution du 20 2022 ne constitue pas une base juridique pour les institutions actuelles. C'est après l'élection présidentielle qu'elle doit rentrer en vigueur. Laquelle élection, je vous l'ai dit, a été reportée sans débat au sein du gouvernement. Il est déplorable que plusieurs questions majeures de la gestion gouvernementale ont été traitées par surprise en mettant le Premier ministre devant les faits accomplis. C'est une pratique de l'ancien régime que le peuple malien a pourtant dénoncé pendant la lutte du M5-RFP et qui jure avec les intérêts supérieurs des Maliens, se multiplie à travers des arrestations extrajudiciaires.
Alors, docteur Souleymane Keïta, vous êtes observateur, analyste politique. Peut-on dire enfin, après cette sortie de Choguel Kokala Maïga, que l'ex-premier ministre a décidé de briser le silence?
Merci bien, M. Gadjigo. Bonjour, mes co-débatteurs et ceux qui vont nous suivre à travers cette émission. Il y a quelques mois, j'étais sur ce plateau avec Dr Touré au lendemain du limogeage de Dr Choguel Kokala Maïga pour parler de sa gestion. J'avais dit en ce moment qu'il va forcément, inévitablement porter le manteau du chef de file de l'opposition. Sinon, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est en train de dénoncer n'aura pas d'effet. Alors, et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Choguel Kokala Maïga, parce que c'est la voix qui porte le plus, il n'est pas le seul à briser le silence. Ali Noum Diallo l'a fait il y a quelques jours, quelques semaines. Il y a Muntagatal dans la semaine. Il y a Cheikh Oumar Cissokho. Donc, il y a une grogne qui commence à se faire entendre. Et cela s'explique pourquoi maintenant. Pourquoi aujourd'hui et pourquoi ces acteurs-là? Ils ont participé à renverser un pouvoir. Mais sauf que, à l'époque, le M5 avait refusé de répondre à une question fondamentale. Qu'est-ce qui va se passer après Ibeka? Le M5 a toujours esquivé cette question, en se cachant derrière l'expression qui était utilisée ça et là, comme nous sommes 25 millions de Maliens, 23 millions de Maliens et 23 millions d'intelligence, on trouvera la solution. On savait qu'il n'y avait rien de préparé. Et quand les militaires sont entrés dans la danse, ils ont commencé à parler de partenariat. Là aussi, je l'avais dit dans le débat précédent, il n'y a pas de partenariat dans la gestion d'un État. Aussi bien, on le dit en Bamanakan, Fangate Kalfa, mais Fangate Kla. On ne confie pas le pouvoir, on ne partage pas le pouvoir. Il y a quelqu'un qui a l'effectivité du pouvoir, qui l'exerce. Et dans ce cas, il a besoin des hommes et des femmes qui l'accompagnent. À un moment donné, c'était Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. C'est à partir de la clarification que l'on s'est rendu compte, enfin beaucoup se sont rendus compte qu'il n'était pas consulté et qu'il n'était au cœur de rien. On le savait nous autres, qu'il était un Premier ministre sans pouvoir. On le savait, mais il a encaissé. Il a encaissé des coups. Des coups, il en a donné, mais ce n'était pas suffisant. Donc, quand il a été limogé, il faut qu'il rende compte. Mais dans ce compte-rendu, il y a deux lectures. D'une part, il y a ce que Choguel reproche aux militaires, de l'avoir mis de côté, de l'avoir écarté, de ne l'avoir pas consulté. D'autre part, il y a le fait que Choguel s'approprie tout ce qui a fonctionné pendant la transition et pendant son magistère à la primature. Donc, on est dans une espèce de procès qui se joue à trois temps. Il y a eu le temps de la rectification, le temps de la clarification. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la dénonciation, si ce n'est de la délation.
Ok. Docteur Touré, vous avez aussi suivi certainement samedi dernier cette sortie de Choguel. Je pense que ça continue toujours de faire, en tout cas, de susciter des commentaires sur les réseaux sociaux notamment. Est-ce que vous êtes d'accord avec Keïta que ça témoigne d'une grogne qui se fait de plus en plus entendre au niveau de la classe politique?
Certainement, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à tout le monde. La dernière sortie du docteur Choguel Kokala Maïga témoigne que malgré que les gens disent qu'il n'y a pas la liberté d'expression existe. Les politiciens commencent à réagir de plus en plus. Pour moi, qui pourrait avoir trois lectures, la première lecture, c'est que les politiciens cherchent à se reconstituer, notamment en termes de leadership, parce que carrément, il y a l'absence crucial. Il n'y a pas de leadership au sein des politiciens maliens. On n'a pas un leader politique qui pourrait incarner l'union. C'est comme c'était le temps du M5. C'est-à-dire que le peuple malien, à ce jour aussi, a besoin d'une entité à laquelle le peuple peut s'identifier, comme était le M5, qui peut porter la voix. Ça n'existe pas. Donc ce que je vois dans les différentes déclarations des partis, des leaders politiques, c'est qu'ils sont dans une dynamique de se reconfigurer, tout en mettant les bases pour s'opposer à la nouvelle classe politique. Il est opportun aussi de reconnaître que l'échiquier politique malien est dans une nouvelle configuration. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle politique par des nouveaux politiciens qui sont là, qui font face à l'ancienne classique. Et si on revient à Dr Choguel Kokala Maïga, dans tous les cas, ce qu'on peut retenir des erreurs des partis de politique au Mali, c'est qu'il manquerait plutôt ce qu'on appelle la consistance et la cohérence dans l'action. Donc, nous avons vu que c'était des gens qui étaient avec le gouvernement. Et d'ailleurs, même tous ceux qui sont sortis, à un moment donné, nous ont vendu l'idée qu'il faut la reconquête territoriale d'abord avant d'aller aux élections. Donc, ils étaient dans le partage du pouvoir. Ils sont acteurs de ce qui se passe.
Donc, pour vous, Choguel n'est pas cohérent aujourd'hui en tenant de tels propos?
Bon, pas Choguel seulement, parce que toute personne qui...
Oui, puisque lui, en tout cas, il a été très proche des autorités actuelles, Premier ministre, et... au moins de trois mois, sinon trois mois après son limogeage, oui, s'il tient de tels propos.
En réalité,
c'est un manque de cohérence.
La cohérence où? Parce que c'était ce qu'on nous a vendu au niveau des assises, ce qu'on nous a vendu au niveau du dialogue intermalien, qu'il faudrait la reconquête territoriale, la stabilité pour aller aux élections. Donc du jour au lendemain, comme on l'a dit, quand je suis là, danse bon, quand je ne suis pas là, danse bon. Mais heureusement pour Shogel, lui, il a déjà critiqué avant de quitter. Et ce qui a été même la cause sinon de son départ. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut dire, l'ensemble des politiques, qu'est-ce qui nous manque? C'est toujours la cohérence et la constance dans les actions. Ça, je le maintiens. Et aussi, qu'est-ce qu'on a constaté? Les politiques, maintenant, sont dans une dynamique. Dans une dynamique qui pourrait, à un certain moment, jouer même leur existence. Parce que nous avons vu, la charte est là, la révision en cours. Et nous avons la charte des partis politiques qui doit être révisée, où on demande carrément de supprimer le financement, de réduire. Donc ça, c'est une manière pour les partis politiques de se manifester. Deuxième point, nous avons la charte pour la paix. Les politiques étaient là-bas pour se défendre. Donc en troisième point, et si on se résume à ce que Shogel dit, c'est ce qui confirmerait l'analyse de mon doyen, c'est pour dire que vraiment il y a un désaveu, il y a un fossé, et la rupture est consommée entre Shogel et le pouvoir en place. Parce que tout ce qui est bon, c'est lui. Tout ce qui n'est pas bon, il n'a pas été consulté. Or, en politique, les acquis se consolident. Donc moi, ce que je préconise à ce niveau, autant Shogel, autant les partis politiques, que nous, en tant que citoyens...
Peut-être qu'on va en parler vers la fin de l'émission, les solutions que les uns et les autres proposent. Alors, docteur, professeur Abdoul Sogodogo, l'ex-PM Shogel Kokkalam Mayiga avait pourtant demandé à ses proches, je me rappelle d'une de ses vidéos où il recevait ses proches, il a demandé à tout un chacun de ne rien entreprendre qui pourrait déstabiliser cette transition. Et entendre Shogel s'exprimer comme ça, comment vous l'analysez, cette sortie?
Merci, monsieur Seko, pour l'invitation, et merci à toutes ces personnes qui nous écoutent en ce moment. Et à la suite de votre question, je me pose une autre question. Est-ce qu'il est en train d'entreprendre des actions pour déstabiliser la transition?
Pour vous, cette sortie n'a rien de mauvais de...
Je pose une question. Okay. Est-ce que c'est ça? Voilà. Donc, si on pose cette question, peut-être qu'il va falloir des réponses plus construites. Mais... Et on peut regarder autrement, et c'est ce que je m'en vais faire, c'est comment est-ce qu'il faut comprendre les différents discours tenus par des leaders politiques ces derniers jours. Ça, il faut l'attacher à un contexte. Ce contexte, c'est qu'il y a une phase de la refondation du Mali qui est en train de se jouer. Et lors des assises de 2022, on avait bien parlé des réformes politiques et institutionnel. Et une de ces phases de réforme politique est en train de se mettre en œuvre actuellement. C'est d'abord la relecture de la charte des partis politiques, mais un peu bien avant ça, c'est deux actions majeures. Il y a le dialogue intermalien qui a abouti à un document qui va être décisif. Et vous avez aussi une charte pour la paix qui est en train d'être élaboré actuellement. Et ces différents éléments-là ne sont pas parfois appréciés de la même façon par les différents acteurs et ne sont pas vus de la même façon. D'abord, les partis politiques aujourd'hui veulent clairement que leur rôle soit suffisamment défini et qu'on puisse voir clairement leur fonction tant que le pays va rester attaché à la démocratie. Parce que ça aussi, il faut le rappeler, la constitution de 2023 est claire en la matière. Le Mali est un pays démocratique. Donc ce choix est clairement fait. Et dans une démocratie, la lutte pour le pouvoir est encadrée. Et donc, je comprends que les partis politiques, n'est-ce pas, veulent que leur opinion soit versée dans le débat public. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pour construire, parce qu'il y a une sorte de compétition aujourd'hui pour construire une opinion dominante. Et quel doit être le contenu de cette charte pour la paix? Quels sont les acteurs clés qui devraient y être? Et la question est posée par beaucoup d'acteurs. Est-ce qu'ils sont tous là autour de la table? Est-ce qu'ils ont tous la capacité de se faire entendre dans ce débat-là? La réforme des partis politiques qui est engagé, est-ce que ça va aboutir, comme certains s'inquiètent, à la suppression de certains partis politiques? quel est le contenu de ce qu'on a appelé la rationalisation des partis politiques. Vous voyez, c'est un ensemble d'éléments qui n'est pas assez clair pour beaucoup d'acteurs et qui veulent rapidement se faire entendre pour donner une orientation au débat et aux décisions qui vont survenir dans les jours à venir. Donc c'est dans ce cadre-là que je mets ces différentes interventions. Pour revenir proprement dit à l'intervention du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre Choguel Maïga, mais je trouve que quelque part, ce n'est pas si surprenant, comme le disait tout à l'heure Touré, il a formulé cette critique et après on a vu qu'il a, voilà, il a été débarqué. Ça veut dire qu'il fait un choix. Peut-être que ce que j'ai parfois pensé, est-ce que le M5 côté Choguel ne semble pas convaincu que cette transition est véritablement la leur et que cette transition, c'est pour cela peut-être qu'il dit, il interdit à ceux qui lui sont proches d'entreprendre quoi que ce soit qui puisse freiner cette transition parce qu'ils considèrent que c'est leur bébé. Et s'ils sont convaincus que c'est leur transition, quelque part aussi, on doit se dire qu'ils doivent accepter d'être comptables de tout ce qui se passe pendant au cours de cette transition. Et ça rend difficile en même temps l'exercice auquel il veut se prêter, une clarification. Je crois que c'est le mot qu'il a utilisé lui-même. Et qu'est-ce qu'il faut clarifier? Est-ce qu'il s'agit du rôle joué par le M5 dans la gouvernance ou est-ce qu'il s'agit de la lutte même du M5? Comme le disait Keïta et Touré bien avant moi. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Je pense qu'on n'est pas encore allé en profondeur de ce débat. Ces interventions dans les jours à venir vont encore nous en dire plus.
Mais qu'est-ce qui a fondamentalement changé du limogeage de Choguel à aujourd'hui? Quels sont les manquements qu'il y a eu? Quelles sont les violations qu'il y a eu? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que l'ex-premier ministre puisse faire une telle sortie? Alors que quand il était à la primature, c'est vrai que quelques rares fois, il disait de façon un peu plus voilée, il critiquait un peu la gestion, mais aujourd'hui, il critique vertement. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est sous le coup de la frustration, voilà, parce qu'il se sent trahi, entre guillemets?
Trahi, ça serait très compliqué. Mm-hmm. Parce que il faut comprendre que quand il y a ce qui s'est passé au Mali en 2020, donne la réalité du pouvoir aux militaires. Ça, c'est voilà, le CNSP de l'époque de Jah. Donc, quelqu'un détient la réalité du pouvoir et qui associe, comme le disait Keta tout à l'heure, d'autres forces vives de la nation à la gouvernance. Et je suis sûr que l'expérience de Choguel lui permet de comprendre ça en tant que leader politique qui est sur la scène politique depuis plus de 20 ans, peut-être une trentaine d'années. Je pense que il y a peut-être l'obligation de réserve qui pesait sur lui en tant que Premier ministre. Peut-être qu'il commence à se défaire de cette obligation de réserve. Et je suis même tenté de dire qu'il se repositionne sur la scène politique en tant que teneur peut-être d'une autre vision de cette transition. Peut-être qu'il voudrait une autre façon de gouverner qui n'est pas peut-être à l'écouter la direction prise aujourd'hui. Et peut-être qu'il veut s'appuyer là-dessus pour bâtir sa nouvelle ligne politique qu'il va déployer dans les jours à venir.
D'accord. Docteur Keïta, professeur Sougoudougo vient d'analyser un peu le timing de cette sortie de Choguel. Mais moi, je voudrais qu'on élargisse aux autres sorties. Si on essaye d'analyser le timing pour ces sorties-là, quelle lecture vous pouvez en faire?
Alors, le timing est bien choisi pour certaines raisons. D'abord, le gouvernement actuel pêche par la communication. Donc, c'est l'une des failles de ce gouvernement. Je rappelle au passage que c'est un gouvernement sans porte-parole, ce qui est important. Donc, la parole du gouvernement n'est plus portée par un individu indiqué à cet effet. Ça ne peut pas être l'actuel Premier ministre qui a déjà un autre ministère à charge, donc il ne peut pas être porte-parole. Et Le gouvernement, dans son ensemble, a fait des sorties ratées ces temps-ci. Parmi ces sorties, il y a commencé par le président, l'affaire des panneaux de Safo. C'était du raté, mais monumental. Ensuite, il y a eu l'affaire des taxes. Donc, le gouvernement, par son incapacité à véritablement communiquer, a ouvert des failles. Et les politiques n'attendaient que ça. Il y a l'alerte donnée par le professeur Ali Noum Diallo, qui avait dit à l'époque, pour paraphraser, faites attention, les militaires risquent de créer leur parti politique. Et le Premier ministre actuel a jugé nécessaire de répondre oui. au professeur, qui est sorti avec une longue lettre pour dire l'alerte que je donne, des choses comme cela se sont déjà passées ailleurs et ici. Et il est possible que ça se passe. Et de toute façon, on se rend compte qu'il y a comme une sorte de stagnation. Quand on veut faire le bilan de la transition de 2020 à aujourd'hui, on regarde en arrière, on a l'impression qu'on tourne en rond au risque de faire un pléonasme. On tourne en rond. Donc, les politiques ont jugé nécessaire, puisque la population aussi commence à s'impatienter. C'est le moment choisi pour lancer les pics vertement.
Oui, mais certains politiques, à part, en tout cas, certains qui n'ont été jamais associés à cette transition, mais pour d'autres, on peut quand même dire que c'est par revanche ou bien par frustration, puisque ce à quoi ils s'attendaient, ils n'ont pas pu l'obtenir. Quand on prend Choguel, quand on prend Moutagatal, Cheikh Oumar Sissoko, c'est des gens qui étaient dans le mouvement M5, au plus fort de la contestation. Aujourd'hui, si eux, ils font des sorties, on peut l'interpréter comme une sorte de frustration aussi, non ?
Alors, cette frustration, il faut l'amener un peu plus loin. Si on veut faire une analyse psychanalytique, ils ont été d'abord dans le gouvernement Ibeka. Je rappelle que Choguel a été porte-parole. Ensuite, c'est après leur sortie du gouvernement qu'ils ont créé les M5. C'est à partir de là qu'il y a eu le braquage. Ils se sont braqués. Et tant qu'ils étaient aussi dans le gouvernement, en tout cas la frange du M5 qui était dans le gouvernement, tout se passait bien. Choguel s'attaquait même aux politiques qui parlaient d'élections en ce moment-là. Et maintenant, c'est lui qui réclame les élections, parce qu'il n'est plus là. Je veux dire, ça fait partie d'une tradition politique malienne. Tant que je suis là-dedans, ce que Dr Touré disait, ça va, ça marche. On peut être résilient, on peut se ceindre les reins. Mais si je suis débarqué, du moment où je ne fais plus partie, c'est qu'il faut tout renverser. Mais je crois que c'est le moment d'être prudent, parce que nous sommes dans une situation où tout peut basculer très rapidement. Mais moi, il y a quelque chose d'autre qui m'inquiète plutôt que ceux qui sont en train de parler. C'est plutôt ceux qui ne sont pas en train de parler. Ceux qui ne peuvent pas parler. Je parle là de tous les prisonniers d'opinion qui sont dans les cachots. Pourquoi je rappelle cela? Quand des leaders d'opinion sont enfermés dans des prisons, on crée une alliance. Ça s'est déjà produit.
Mais ils sont quand même sous le coup de la justice. Bien qu'ils soient des leaders d'opinion.
Je donne juste des exemples. Mm-hmm. Des exemples très contemporains. C'est comme ça que les frères musulmans se sont renforcés en Égypte. C'est dans les prisons. C'est comme ça que l'État islamique est né dans les prisons d'Abu Ghraib. Quand il y a une forte concentration des leaders d'opinion dans les prisons, c'est un danger. Même si on pense qu'on peut les éparpiller, c'est toujours un danger.
– Ok, docteur Touré, est-ce qu'on peut parler de ras-le-bol pour le cas de Choguel, puisqu'on sait aussi que depuis son limogeage, depuis son départ de la primature, il fait l'objet d'attaques ciblées, de polémiques. Il serait en tout cas en passe d'être poursuivi par la justice. Certains s'en prennent à lui en disant qu'il aurait détourné du fond. Est-ce que finalement, c'est parce que Choguel en avait marre de tout ça, entre guillemets, qu'il a décidé de s'afficher clairement, comme l'a dit Dr Keïta, comme opposant à la transition?
Bon, il y a deux lectures possibles. La première, c'est que, pour rappel, Dr Choguel Kokala est un grand communicateur. Il fait de la communication politique. Donc il fallait s'attendre entre le timing, entre les on-dit qu'il aurait été convoqué à la Cour suprême et la déclaration. Et en termes de liberté, de la liberté d'expression, en d'aucun lien, en d'aucun moment, certains pourront avoir des démêlés avec la justice. Donc certains, j'ai vu dans d'autres commentaires qui disent qu'il a fait cela parce que si un jour il y a un problème, on va dire que parce qu'il a parlé ainsi. Donc c'est pour donner un peu de la matière. Si un jour il aura des difficultés en termes de avec les autorités. Mais dans tous les cas, la sortie du docteur Choguel, comme la première, c'est des sorties hasardeuses. Parce que c'est des sorties qui n'arrangent rien, mais c'est des sorties qui pourront déranger leurs relations. Donc est-ce que le gouvernement en question pourrait lui faire appel? Donc cela veut dire, nous, on a ce qu'on a toujours dit.
Mais est-ce qu'il faut s'en inquiéter, puisque selon vous-même, c'est des
non, en
gens
faut
qui
pas
sont
pas
plus cohérents.
Il ne faut pas s'en inquiéter, parce que moi, personnellement, je n'ai rien contre les politiques, mais nous sommes avec la faillite des partis politiques classiques. C'est les mêmes personnes qui étaient dans tous les gouvernements. C'est les mêmes personnes qui n'arriveront plus à mobiliser. Donc si on voit un peu les déclarations des partis politiques, ils sont tous dans la dynamique de chercher à mobiliser les consciences populaires. Or, aujourd'hui, les Maliens ont d'autres préoccupations que d'écouter les politiques, qui à un moment donné s'entendent, qui à un moment donné s'en sentent déchirés. Donc cela veut dire quoi? Les sorties du docteur Choguel Kokala et des partis politiques qui animent l'espace politique chercheraient toujours, moi à mon avis, à créer les communications très populistes, à faire adhérer la population pour souvent les faire sortir et les téléguider, comme on a eu le cas d'Emso. Cela veut dire que ça, ce n'est plus possible. C'est-à-dire qu'il y a tellement de réserves des Maliens par rapport à ces partis politiques. Ce que je pourrais dire, les sorties des partis politiques, pour moi, c'est de non-événements. Parce qu'à ce jour, qu'est-ce qui fait la force de ce gouvernement? C'est le peuple. Jusqu'à présent, le peuple tient. Et l'a souligné le docteur Keïta, tant que le gouvernement arrive à assurer les besoins fondamentaux, c'est-à-dire le gouvernement assurer les difficultés, il n'y aura pas de problème. Mais quand les difficultés vont commencer à émerger, ceux qui veulent sortir, qui n'ont pas pu sortir, vont sortir. Mais actuellement, les politiciens peuvent parler. Parce que pour nous, les citoyens lambda, les politiciens sont la cause de ce qui nous sont arrivés. Ils se sont unis au sein du M5, font partie du BECA, ils se sont entendus, on est là. Donc vraiment, ils sont tous comptables de ce qui se passe. Donc les discours, c'est des discours, quand tu lis bien, tu écoutes bien, des discours qui cherchent à mobiliser. Or, il n'y a pas effet de mobilisation. Les citoyens écoutent, les citoyens observent. Parce que les citoyens, vraiment, ils sont fatigués. S'il faut mobiliser les gens au niveau des boulevards, au niveau des places publiques pour les faire sortir aujourd'hui, les populations, ne sont pas d'avis, mais ils écoutent, ils attendent. Mais la population malienne a besoin de quelqu'un, d'une personnalité neutre qui va porter la voix, qui va incarner ce qu'on appelle le changement dont on a besoin. Sinon, le peuple n'a pas de porte-parole. Si on trouve parmi les classiques, dans la nouvelle, un politicien qui arrive à fédérer, à écouter le peuple et se porte garant, comme faisait le M5, c'est-à-dire être un gendarme pour la population malienne. Aujourd'hui, on n'a pas de gendarme. Aujourd'hui, à qui on peut faire confiance pour porter nos doléances? À qui on peut faire confiance pour soutenir Poumou? Donc, c'est très difficile. Donc, nous sommes dans une situation de fait des partis politiques qui chercheraient à jouer leur survie. Je l'avais dit, leur survie, par rapport à la charte des partis politiques, par rapport aux questions des leaderships politiques, les chefs de file de l'opposition. Donc, c'est toujours des intérêts personnels. Il parle au nom du peuple, mais qui soutient le peuple? Les difficultés sont là. Les difficultés sont réelles, mais qui soutient le peuple? Donc nous, on a besoin vraiment d'un véritable leader qui a un bon projet de société, qui mobilise et qui est fédérateur. Sinon, quand il parle de la création à ce jour, toujours les mêmes présidents, les mêmes candidats, rien n'a changé en termes de sensibilisation, en termes de formation des militants.
D'accord. Professeur Sogodogo, vous, à la place des autorités aujourd'hui, est-ce que vous auriez pris avec sérieux, vous auriez entendu ces sorties ou bien vous les considérez comme un non-événement?
Alors, ces sorties montrent que nous sommes dans un espace politique ouvert. Et ça a son sens. C'est quelque chose que personnellement j'accueille avec beaucoup de signification. Vous savez, dans un pays qui a vécu une crise comme la nôtre, je pense qu'on peut même dire qu'il vit une crise parce que la crise, elle est toujours là quelque part. Elle n'est pas totalement... On n'est pas encore véritablement sorti à tout point de cette crise sécuritaire. Un pays qui vit cette crise et qui a fait le choix de ne pas dissoudre les partis politiques, ça veut dire qu'il veut s'appuyer sur ces partis politiques comme des médiateurs entre la population et les institutions républicaines, quelque part déjà. Et donc, quand les acteurs portent ce genre de discours, ça permet au pouvoir de les analyser, de les étudier et de voir comment est-ce qu'il peut toujours réadapter, repenser, travailler avec les formations politiques, mais pas seulement les formations politiques, mais tous les groupes organisés qui naviguent dans le même sens, qui est de consolider le vivre ensemble. Donc quand vous le regardez de cette façon, donc, vous voyez que ce sont des opinions qui viennent alimenter le débat public. Et dans ce sens-là, ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas mauvais en soi. Parce qu'il n'y a pas un appel à une désobéissance ou à une déstabilisation du pays. Pas du tout. Ce sont des critiques, oui, des dénonciations. Et quand on dénonce naturellement, on s'assume, parce que certainement on a les éléments sur lesquels on fonde pour dénoncer quelque chose. Quand on donne son point de vue, on argumente. Et c'est de ça qu'on a besoin. Mais ce qu'il faut peut-être, c'est de structurer ce débat. Et c'est ce qui a parfois manqué. Et comment structurer ce débat? Parce que parfois, il faut que ce soit le pouvoir public qui soit au devant du débat public. Par exemple, ce qui se passe aujourd'hui autour de la révision de la charte, oui, c'est bien. Parce qu'on a invité très tôt, je crois que c'était depuis le mois de décembre, on a invité les partis politiques à proposer des idées et d'écrire clairement au ministère. Et ça a permis aux partis politiques de s'organiser en des groupes pour réfléchir ensemble, pour avoir des suggestions à faire. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, c'est ce qu'il faut peut-être mettre en avant, que l'État essaye de plus en plus d'organiser les débats sur les questions de la nation. Et je pense que c'est ça, parce que les questions posées, quand j'ai écouté et réécouté ces discours, j'ai relevé peut-être deux choses. Une des questions qui est posée, c'est à quand les élections? Voilà. Là, c'est cette question est posée, parce qu'il y en a qui ont clairement demandé, il faut qu'on nous dise quand est-ce qu'on ira aux élections. Et qui va aller aux élections? Et qui va aller aux élections? C'est une inquiétude aujourd'hui, parce que pour les partis politiques, parce que la rationalisation qui est posée, certains craignent de voir leur parti supprimé. Certains craignent de voir que l'appui que l'État fait aux partis politiques supprimé. Certains craignent que les fonds de campagne vont être plafonnés, ainsi de suite. Donc, à quelle réforme on va aller et qui doivent précéder les élections? La relecture de la loi électorale, ça reste aussi une de ces questions, parce que je crois que voilà, elle doit être adaptée à la nouvelle constitution de 2023.
Alors, donc, parlant d'élections, Chouguel, lors de son meeting, il a relevé, comme il avait fait quand il était même Premier ministre, à la veille de son limogeage, il a dit que le report des élections, de la date des élections, a été décidé sans l'avoir consulté sans qu'on l'ait consulté au préalable, sans débat au sein du gouvernement. Le professeur Alinou Diallo, dans sa longue lettre, comme l'a dit Dr Keïta, a aussi parlé un peu des risques, des dangers d'une transition longue. Et Maître Moutagatal aussi, qui, lors de la présentation des vœux, qui a même dit clairement une transition, quelle que soit la qualité de ceux qui la dirigent, plus ça dure, plus c'est dur. Et c'est vraiment dur aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas tenté de dire que les hommes politiques, les politiciens, sont de plus en plus lassés d'attendre le retour à l'ordre constitutionnel?
Si c'est le cas, on peut le comprendre, puisque les partis politiques, dans leur fonction, une de leurs fonctions, c'est on s'organise pour la conquête du pouvoir. Et donc, d'ailleurs même, ça semble souvent être l'élément mis en avant. Sinon, vous avez l'éducation et la formation citoyenne aussi, qui est une des missions fondamentales des partis politiques. Et donc, une formation politique, si elle s'impatiente pour l'ouverture de la compétition pour le pouvoir, on peut bien le comprendre parce que c'est quelque part aussi leur raison.
D'accord.
Mais attention, je pense que la crise par laquelle le Mali est passé appelle à une démocratie, en tout cas à une gouvernance substantielle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un système électoral qui soit fiable, qui rassure et qui ne soit pas en lui-même source de conflit, et que ce processus par lequel nous allons sélectionner nos leaders, et que ces leaders soient suffisamment tenus, n'est-ce pas, par des obligations pour qu'ils puissent répondre véritablement aux besoins et aux intérêts du peuple. Et c'est ça qu'on a appelé quelque part aussi la refondation. C'est ça les réformes politiques et institutionnelles qui devraient être engagées. Est-ce qu'on peut aussi aller aux élections sans aller au bout de ces réformes-là, au risque de ne pas reproduire les mêmes choses? Et donc, je pense que l'élection... Oui, quand on fait le choix de ce que nous avons fait le Mali en tant qu'État démocratique, est un passage obligé. Mais à quand il faut aller à ces élections? Il faut convenir des conditions minimales à réunir pour pouvoir aller à ces élections. Et c'est ça aussi le rôle du débat, pour que les acteurs puissent le déterminer ce moment-là ensemble.
D'accord. Docteur Keïta, est-ce qu'on peut parler d'une impatience de certains acteurs politiques vis-à-vis de la tenue des élections, notamment ceux qui étaient en tout cas proches de la transition? Quelqu'un comme Moutagatal, s'il s'exprime comme ça, comment vous l'analysez?
Ça interroge les politiques, une transition longue. C'est-à-dire, au Mali, nous avons toutes les expériences possibles et imaginables. Ce n'est pas la première transition très longue. La première transition très longue, c'est la transition du CMLN. Alors, de Moussa Traoré et de ses compagnons. On a commencé, c'était 6 ou 8 mois dans un premier temps. Ils ont fait 23 ans. Donc, les gens ont de la mémoire, ils s'interrogent. Et que les politiques s'impatientent, qu'ils soient lassés de la longueur de la transition, dépend de où est-ce qu'ils sont dans la transition. Aussi longtemps que Dr Choguel Kokala Maïga était Premier ministre, il n'était pas très pressé d'aller aux élections. Aussi longtemps que certains sont membres du CNT, ils ne sont pas très, très pressés d'aller aux élections. Au Mali, nous avons une transition, une tradition, politique qui consiste à faire de la politique une activité à plein temps. Certains ont arrêté de travailler ou certains ne travaillent pas du tout. Vous demandez leur qualification, leur profession, on dit simplement c'est un homme politique. Alors donc, ils ont besoin de postes politiques, ils ont besoin d'être nommés ou d'être élus pour véritablement vivre. Effectivement, une transition qui dure n'arrange pas. Deuxième chose, qu'est-ce qui fait que la transition dure? C'est pas la première fois que, c'est pour répondre à une préoccupation du professeur Sogodougou, c'est pas la première fois que les élections soient budgétisées. Cette année encore, 2025, il y a un budget pour les élections. Les partis politiques étaient très contents, mais ils ont commencé à s'inquiéter lorsque le Premier ministre, enfin le président, son adresse à la nation, la question de l'élection est passée sous silence. Il n'a plus parlé de cela. Alors que c'était une adresse à la nation. Ça interroge. Et je crois qu'il y a des problèmes encore beaucoup plus pointus, mais ça c'est entre eux-mêmes qui va gérer la transition dans la transition pour aller à l'élection. Parce que le président, il doit démissionner de l'armée. Pas retraite anticipée, mais démissionner. C'est ce que le professeur Ali Noum Diallo dit dans sa lettre, une espèce de diatribe. Mais Atete n'a pas démissionné. Il est parti à la retraite. Donc, ça fait jurisprudence. Et après, il faut trouver quelqu'un, c'est le président du CNT, qui va assurer l'intérim, donc une transition dans une transition. Qui va durer combien de temps, c'est aussi une autre question. Et les politiques, la vieille classe politique commence véritablement à vieillir. Et c'est la chance d'être présidentiable. Si cette élection passe, qu'il y ait élection et que les militaires sont candidats, on peut rappeler la phrase de Omar Bongo en Afrique, on n'organise pas les élections et les perdre. Et si les militaires gagnent les élections, il y a une classe politique qui va à la retraite.
Mais est-ce que vous êtes d'accord avec Touré qui pense qu'aujourd'hui, vraiment, les Maliens ont d'autres préoccupations, qui n'est pas d'entendre tout, en tout cas, toutes ces sorties des hommes politiques? Ça veut dire qu'il n'y a pas de, il y a pas péril en la demeure. C'est un non-événement, en quelque sorte.
Il faut se méfier. Touré a dit des choses sur lesquelles je devais intervenir quand il a parlé de la faillite des politiques, des partis politiques. Ce n'est pas que les politiques qui ont géré le Mali. Les militaires l'ont géré. Autant que les politiques, souvent même plus que les politiques. Je rappelle, Atete, il est resté militaire. Donc c'est une faillite collective et des politiques et des militaires qui ont gouverné. Alors maintenant, dire que la population est avec X ou Y, il faut se méfier. Personne n'a la maîtrise de la population. Moi, je ne dis pas peuple, je dis population. Personne n'a la maîtrise de la population. Elle est tellement changeante. Son humeur évolue tellement. Vous vous rappelez, en 2013, la population qui est sortie pour voter élire Ibeka. Mais c'est les mêmes hommes et femmes qui se sont retrouvés 7 ans après sur le boulevard pour demander son départ. Personne n'a la maîtrise de la population. Son humeur évolue très vite.
Okay.
Et aujourd'hui, c'est vrai que nous traversons une crise historique, on n'a jamais connu. Le Mali joue sa survie. Mais il y a aussi des survies individuelles que les hommes voient. Ça veut dire qu'il y a la guerre, c'est vrai. Mais quand dans ma famille, il y a la famine qui s'installe, je me vois d'abord et c'est humain. C'est humain.
D'accord. Docteur Touré, maintenant, nous sommes pratiquement au terme de l'émission. Si on peut parler un peu de comment les autorités doivent, en tout cas, gérer cette situation. Est-ce qu'il faut ouvrir un cadre de dialogue avec tous ces acteurs politiques-là, les rassurer? Peut-être que c'est parce que certains sont inquiets, comme l'a dit aussi Docteur Keïta. Ils pensent que après cette élection, ils n'auront plus d'autres chances ou bien ils risquent d'aller à la retraite. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut trouver des moyens pour les rassurer, en tout cas pour calmer, pour que les choses ne s'enveniment pas?
Bon, je l'avais dit au départ, je suis très confus parce que ceux qui ont vendu la reconquête territoriale avant les élections, et les réformes politiques et institutionnelles veulent qu'on aille forcément aux élections. Donc cela veut dire que la cohérence et la pertinence, la cohérence et la constance n'y est pas, d'avis. Et ce que moi je proposerais, c'est que les réformes politiques continuent. Et nous avons l'EJ qui a pu organiser le référendum. Le gouvernement peut organiser les élections avec l'EJ. Maintenant, ce que moi je propose encore aux partis politiques et le gouvernement, ils se connaissent déjà. Ils ont travaillé ensemble. Les canaux existent. Il y a déjà une mise en charge du processus électoral. Donc entre eux, ils peuvent discuter. Mais nous qui sommes au Nord, à tous les coups, c'est Bamako qui est chauffé, c'est Bamako qui fait tomber. Donc, vraiment que les gens de Bamako s'entendent, qu'ils aient pitié de nous, nous qui sommes au nord, notamment de Tombouctou. Les difficultés sont là, Gao, Meneka, Kidal et autres. Vraiment que Bamako s'entende et que les gens ne mettent pas Bamako devant les régions. C'est que ça, Bamako peut penser élection. Mais nous qui sommes au nord, on pense route, on pense sécurité, on pense emploi, on pense élection. Donc, on a beaucoup de difficultés. Moi, j'ai l'impression que le Mali, il y a deux blocs. Et la charte et toutes les discussions que les gens cherchent à corriger les déséquilibres qui existent entre nous et le Sud. À partir de Mobutu, il n'y a pas d'infrastructure. Il faut vraiment que nous arrivions à conjuguer les efforts qu'on s'entende. Que les policiers fassent balle à terre. Que les régimes écoutent.
D'accord.
Personne n'est au-dessus du
d'accord.
Mali.
D'accord. D'accord. Que les politiciens fassent balle à terre. Que le régime écoute, professeur Sogodogo.
Oui, et je crois que...
Comme recommandation,
je pense que ce débat qui s'est invité peut-être à l'improviste, que j'appelle l'animation du débat public, il faut qu'elle se poursuive, mais de façon sereine, de façon constructive, parce qu'il faut dire ce qu'on pense, il faut opiner pour que justement on puisse dégager à la longue une opinion dominante. Et j'ai aimé une des recommandations du dialogue intermalien qui est de poursuivre justement le dialogue avec l'ensemble des acteurs. Et ce dialogue-là, il faut le poursuivre, il faut l'institutionnaliser derrière nous.
D'accord. On termine avec vous, docteur Keïta. Qu'est-ce que les autorités doivent faire aujourd'hui? Comment elles doivent s'y prendre pour que vraiment calmer les tensions, rassurer tout le monde et que cette transition puisse arriver à bon port?
Il faut commencer par instaurer la confiance. Parce que c'est d'abord, ce n'est pas une crise politique, c'est une crise de confiance qui s'est installée depuis un certain moment. Il faut réinstaurer la confiance et aller tendre la main aux hommes politiques de tous bords. Trouver un cadre, comme le professeur vient de dire, trouver un cadre et inviter, entretenir des discussions. Lorsque on se rend compte que le timing n'est pas tenable pour les élections, le dire clairement et motiver la décision. Pourquoi ? Donc tout cela participe de la question de la restauration de la confiance.
D'accord. Et cela est bien noté. Merci à Dr Souleymane Keïta, il est enseignant, chercheur, analyste politique. Docteur Amadou Touré, également enseignant, chercheur et analyste politique. Et professeur Abdoul Sogodogo, enseignant, chercheur également et politiste. On parlait aujourd'hui de la politique. Est-ce que les langues se délient enfin au sein de la classe politique? Ce grand dialogue a été modéré par Sikou Gadjigo. À la mise en onde, Yahvé Adjiratou Traoré, à la régie vidéo, Mamadou Ouattara. Merci à toutes et à tous. Et à demain pour un prochain numéro.